La première question est toute simple. On se dit que vous connaissez Elena Ferrante.
Alors, j'ai pu lui écrire, mais je ne l'ai pas rencontrée, je n'ai pas vu son visage. Mais elle m'a répondu très, très gentiment. Et donc, j'ai pu en tirer quelques indices, mais qui valent ce qu'ils valent, évidemment.
Donc, elle existe, si elle répond.
Absolument, elle existe. Oui, non, on sait qu'il y a un auteur, probablement une auteure, et on a quelques informations à travers ce qu'elle écrit. Donc c'est des suppositions. C'est vrai que c'est un petit jeu qu'il est inévitable de jouer. La curiosité est bien naturelle.
Mais d'où vient votre conviction qu'il s'agit, vous dites elle depuis le début, qu'il s'agit véritablement d'une femme ?
Alors, quand on lit son œuvre, à la fois les deux premiers volumes de la série L'Amie prodigieuse, mais aussi les précédents.
Oui, parce qu'en fait, elle commence en 1992, hein, je crois.
Ça,
elle a vraiment toute une œuvre derrière elle, bien avant L'Amie prodigieuse.
Le premier titre qui est paru chez Gallimard, L'amour harcelant, date de 1995. Il y a une plongée dans la psychologie féminine qui est telle que si c'est un homme, on a affaire à un vrai phénomène. Mais j'ai plutôt le sentiment que c'est une femme. Ça paraît impossible.
Donc ça, simplement sur la lecture de ces livres, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments ? Bon, on sait notamment qu'en Italie, beaucoup de journalistes, beaucoup de gens ont essayé de savoir. Est-ce qu'il y a quelques éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour essayer de dresser une vague identité de cette Elena Ferrante ?
Alors, il y a beaucoup de rumeurs qui sont parfois contradictoires et que son entourage, son éditeur essentiellement, se garde bien de démentir ou de confirmer. Mais il semble que ce soit effectivement une femme, qu'elle soit jeune, elle doit avoir une petite soixantaine, au grand maximum, qu'elle ait des enfants, qu'elle ait enseigné peut-être dans des instituts culturels à l'étranger, on parle de la Grèce.
Mais d'où viennent ces informations ? Elles ont été distillées par quelqu'un ? Ou c'est le fruit d'investigations ou de simples déductions, d'hypothèses échafaudées ?
Vous savez, Rome est un village. il semble qu'elle y vive ou qu'elle y... maintenant au moins. Et donc, il y a beaucoup de bavardages. Il y en a trop pour qu'on arrive à faire le tri, en réalité. Mais ce sont des à force d'entendre les mêmes choses, on commence on finit par se dire en fait que on tient là quelques faits à peu près solides.
Mais quand même, ce mystère entretenu autour de l'identité, est-ce que on peut écarter totalement l'hypothèse, par exemple, d'une écriture à quatre mains qui se cacherait derrière un personnage comme ça, créé de toutes pièces ?
Alors, écrire à quatre mains, ça existe, en partie en Italie. En Italie, hein, Fruttero Lucentini sont... Mais c'est un art difficile. Il y a une telle cohérence dans son travail. On entend sa voix. On entend sa voix et après, les romans nécessitent tout un travail éditorial. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui lisent, qui conseillent, un éditeur. Il n'est pas exclu que même si les grands auteurs ont forcément moins besoin de conseils que d'autres, les conseils, elle en a sûrement eu au cours de son parcours littéraire. Mais il y a une telle identité, une telle force dans ce qu'elle écrit que j'ai envie de dire que c'est la voix d'une seule personne.
Est-ce qu'on peut écarter aussi l'hypothèse d'un Émile Ajar à l'italienne, à savoir que derrière cette Elena Ferrante se cacherait un autre auteur déjà installé, reconnu, et qui justement utiliserait cette identité d'emprunt ?
On peut tout imaginer. La question, ce serait pourquoi ? Puisqu'aujourd'hui, Elena Ferrante a du succès dans le monde entier, qu'on s'accorde à la considérer comme l'auteur d'une des œuvres les plus importantes qui s'écrit aujourd'hui, au moins en Italie et peut-être au-delà. Pourquoi ne pas être sorti du bois ?
Est-ce qu'on ne peut pas tout de même se poser une question sur les motivations réelles ? On pourrait interpréter ça comme une volonté sincère de se protéger, peut-être une forme de timidité, mais aussi comme une stratégie commerciale un peu machiavélique et qui en effet marche.
Alors, on ne peut pas reprocher à son éditeur, à ses représentants, d'avoir cette pensée-là. Mais je crois que chez elle, il y a un vrai refus d'apparaître. Elle l'a dit à maintes reprises.
Dès le départ, d'ailleurs. Hein,
oui,
crois.
Tout à fait, ouais. Tout à fait. Même et son succès a été. Alors en Italie, elle a eu un succès critique réel assez vite. Mais ailleurs, le vrai succès est arrivé ces toutes dernières années. Je pense qu'il y a quelque chose de sincère, effectivement. Et elle dit elle-même que les livres existent publiquement, mais pas elle. Donc, et il faut aussi préciser que aujourd'hui, dans l'édition, en France, en Italie et partout, on a besoin des auteurs, on a besoin qu'ils accompagnent les livres. Et donc, son absence, finalement, est plus un problème qu'une astuce marketing.
Vous nous disiez tout à l'heure que vous lui écriviez. Je ne sais pas comment elle signe, par exemple, quand elle vous répond.
C'est une bonne question.
Elle pourrait trahir des choses à son insu quand elle vous écrit comme ça, quand il y a une correspondance qui s'installe.
Ça passe par l'intermédiaire de son éditeur, donc qui ne la censure pas, évidemment pas.
Vous n'avez pas une adresse Elena Ferrante.
Non, j'écris à
italia.fr, je ne sais pas quoi.
Non, j'écris à son éditeur qui transmet, qui fait suivre la réponse. Mm-hmm. Je pense que s'il y avait quelque chose, il lui renverrait en disant tu en as trop dit. La signature, c'est une bonne question et j'avoue que je ne me souviens pas. je crois me souvenir qu'il n'y avait pas de signature. Mm-hmm. Mais il y avait le ton. Il y avait le ton, une personne extrêmement courtoise, mesurée, et on sentait des paroles soigneusement pesées.
Et alors, je ne sais pas, vous, par exemple, est-ce que vous avez vraiment cette curiosité personnelle un jour de la rencontrer, tout en préservant le secret? Est-ce que vous l'avez demandé déjà, par exemple? Ou est-ce que finalement, ça n'a pas l'importance, l'essentiel, c'est l'œuvre?
Je pense que ce serait passionnant de pouvoir parler directement avec elle de son travail. Et loin de tout objectif photographique, de toute caméra, je doute que ça se produise un jour. Et finalement, sa voix, je la trouve dans ce qu'elle écrit, et c'est bien comme ça.
Alors, ça peut être aussi une difficulté pour les traductions. Donc, je crois que là c'est une traductrice, hein,
oui,
pour la France, là, sur le dernier. On sait que parfois, les traducteurs ont besoin d'échanges directs, de demander une précision à l'auteur. Comment ça se passe là aussi? Toujours par l'intermédiaire de l'éditeur?
On peut passer par l'éditeur. Jusqu'ici, nous n'en avons pas eu besoin. Le fait est que dans ce qu'elle écrit, il y a... C'est tellement bien conçu, réalisé, que ce n'est pas nécessaire. Je suis aussi là pour aider la traductrice.
Alors, c'est vrai que le mystère seul n'aurait pas suffi à faire le succès des livres d'Elena Ferrante. C'est parce qu'il y a aussi une qualité réelle. On a affaire, quelle qu'elle soit, à vraiment un bon, voire un très grand écrivain. Qu'est-ce qui, pour vous, d'emblée, la caractérise? Quelle est sa spécificité?
Je pense qu'il y a d'une part une capacité assez extraordinaire à recréer tout un monde dans son infinie richesse, c'est-à-dire c'est l'histoire de l'Italie des années 50 à aujourd'hui, et en particulier de Naples, puisqu'une grande partie du récit se déroule à Naples. Et très vite, on est plongé dans cette réalité, une réalité extrêmement riche et variée et parfois chaotique. Et elle a une écriture d'une expressivité telle qu'on est plongé là-dedans, et une fois qu'on y est, on n'arrive plus à s'en extraire. Et il y a aussi, je pense, c'est une chose qui touche beaucoup de lecteurs et lectrices, il y a une vérité des sentiments, des émotions. Chez La Ferrante, tout est... Il y a aussi le courage d'affronter et de parler de sujets difficiles, et dans leur complexité, sans que ça devienne pesant, déprimant ou ou inutilement compliquées. Il y a du courage, de l'honnêteté, et cette vérité-là, je pense qu'elle elle touche juste.
Tout à l'heure, vous disiez, il y a une voix, on entend sa voix, si, je ne sais pas, en quelques mots, en quelques adjectifs, il fallait, pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu encore, s'il fallait résumer cette voix d'Elena Ferrante.
Elle est viscérale, elle est courageuse, elle est profondément honnête et elle est pleine de vie, surtout. La vie dans toutes ses, avec ses larmes, les joies, les peines, tout y est à la fois et tout se mélange. Ça donne parfois le vertige, mais parfois c'est euphorisant.
Vous l'avez déjà un peu évoqué, mais les grands thèmes, ce qui revient en permanence dans ces livres et en particulier dans cette tétralogie, s'il y avait un thème majeur à dégager.
L'amitié. La façon dont les femmes, le chemin parcouru par les femmes vers l'autonomie et vers l'affranchissement de toute tutelle.
Et de ses origines aussi, de là où on vient.
Absolument, absolument. La transformation de l'Italie et en particulier du Sud, l'écriture qui devient le métier d'un des deux personnages principaux. Et puis, mais peut-être que pour résumer tout ça, il suffirait de dire que ce sont des livres qui, et toute l'œuvre d'Elena Ferrante dit ce que c'est qu'être une femme aujourd'hui, hier, demain.
Alors pour terminer, c'est quand même assez vertigineux de voir qu'aujourd'hui, dans cette ère, ce monde, voir cette dictature de la transparence, un tel secret, un tel mystère autour de l'identité d'Elena Ferrante est préservé. Ça fait donc maintenant, bientôt 30 ans que ça dure.
C'est vrai. Je crois qu'il doit y avoir beaucoup d'affection et de respect autour d'elle. Ce qui laisse entendre que c'est quelqu'un qui le veut et le mérite, et donc pourquoi ne pas le respecter à notre tour.
Merci Vincent Reynaud.
Merci à vous.